Bonjour Aymeric.
Bonjour Claire.
Bienvenue sur les ondes de Radio Maria France. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir donc pour cette revue commentée donc de la nouvelle édition de France Catholique. Vous êtes président et directeur de la publication. Donc nous commençons cette revue commentée avec justement les actes antichrétiens qui se multiplient en France. Et dans cette nouvelle édition de France Catholique, vous parlez d'une guerre à bas bruit. Alors pouvez-vous nous en dire davantage ?
Oui, d'abord, merci beaucoup de m'accueillir sur vos ondes. Hein. C'est habituellement Constantin de Vergennes donc, que vous retrouvez chaque semaine. Et donc là, à cette occasion, eh bien, écoutez, je suis ravi de saluer vos auditeurs. Effectivement, ce que vous savez qu'à travers les colonnes de France Catholique, semaine après semaine, nous avons comme un des axes éditoriaux de relever justement toutes ces attaques antichrétiennes, que ce soit dans le monde, évidemment, ou plus près de chez nous, ou même sur le territoire français. Pourquoi ce n'est pas par préoccupation du morbide ou sensationnalisme, mais parce qu'il nous semble important d'abord de pouvoir soutenir nos frères chrétiens, et que pour ça, il faut faire connaître les attaques et les attentats dont ils font l'objet. Alors, c'est plus ou moins grave, évidemment. Et puis, c'est vrai que ces dernières semaines, eh bien, il nous a semblé qu'il y avait quand même une accumulation très surprenante de ces attaques ou de ces attentats. Évidemment, on pense à l'Espagne le 26 janvier dernier, avec une attaque de deux églises dans le sud de l'Espagne qui a fait un mort, le sacristain, et le prêtre également a été blessé avec une tentative d'égorgement à son égard. Si on se rapporte à la France, c'était moins grave, mais bien sûr, tout le monde se souvient du Père Hamel en 2016, de la basilique de Nice, où trois personnes avaient trouvé la mort au sein de l'église en 2020, la mort du Père Olivier Maire, le supérieur des Montfortin, en 2021. Et donc, on se dit quand même que là, il y a une récurrence qui est très, très étonnante. Et surtout, ce qui est le plus choquant, je trouve, c'est l'absence de réaction de nos élus et de nos édiles politiques. Parce que, évidemment, on peut les soutenir par la prière, ces chrétiens qui se font attaquer. Alors, il y a aussi des églises, hein, parfois, c'est moins grave, évidemment, mais on a eu aussi récemment à Paris plusieurs églises qui ont fait l'objet d'attaques. Et c'est vrai que ce qui nous a étonnés à France Catholique, eh bien, c'est l'absence de réaction. Alors évidemment, quand il y a des morts, on entend les paroles de compassion de nos élus politiques, mais, et c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je pense qu'il faudra en venir à reconnaître que le christianisme, la religion catholique n'est pas n'importe quelle religion basée sur le territoire français, qu'elle a maille à partir, ou plutôt elle est partie prenante, c'est plus juste, de l'histoire de notre pays, et qu'à ce titre-là, attaquer les églises ou attaquer les chrétiens, eh bien, c'est s'attaquer à l'identité et l'être même de ce pays, la France, puisque le catholicisme, encore une fois, a été à la base le ciment, on peut dire, de la construction du pays. Donc, voilà, ce qu'on attendrait, et c'est un peu un message, une bouteille à la mer, peut-être, qui est lancée, parce qu'il y a déjà eu des rapports parlementaires sur le sujet, hein, qu'on a appelé, peut-être, c'est un terme impropre, mais il a l'avantage d'être compréhensible, c'est la christianophobie, hein, c'est-à-dire que finalement, on a l'impression que les chrétiens sont une cible facile, d'abord parce qu'ils ne vont pas riposter œil pour œil, dent pour dent, par la violence donc, et puis ensuite parce que finalement, il n'y a pas de réaction. Et donc c'est là où je veux en venir, c'est que vraiment, on attendrait des élus de notre pays qu'ils réagissent très fermement, pas uniquement ni par des paroles, ni même par une réaction sécuritaire qui est sans doute nécessaire, mais c'est vrai que quand on voit à la sortie de nos messes, à Noël, à Pâques ou dans les grandes occasions, des soldats en armes qui protègent et qui gardent les églises, et on les remercie, on se dit, mais où est-on? Dans quel pays vit-on? Est-ce qu'on en est vraiment réduit à la situation du Liban, par exemple? C'est un pays que je connais et où effectivement, on a des soldats en armes qui gardent les églises, mais on est quand même en France. Et donc, voilà, je trouve que là, il faudrait vraiment que les politiques se saisissent à bras-le-corps de ce sujet et qu'ils disent que toucher au christianisme, c'est toucher au pays, et donc vraiment de faire rentrer dans les esprits qu'il y a là une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir, ou sinon, effectivement, eh bien, c'est la phrase de l'Évangile, vous savez, si vous vous taisez, les pierres crieront. C'est le Christ qui dit ça dans l'Évangile, et je crois que malheureusement, on n'en est pas loin, donc c'est pour ça qu'il est urgent de réagir.
Merci Aymeric pour la pertinence de vos propos et qui nous appelle aussi à rester vigilants et justement peut-être aussi à prendre les bonnes clés pour discerner et pour se positionner. Nous poursuivons justement avec l'édito, votre propre édito, où vous parlez donc d'un sujet gravissime et qui malheureusement prend de l'ampleur aujourd'hui, la manipulation transgenre et l'urgence de sauver la jeunesse. Donc, quels sont les principaux points que déjà les auditeurs, futurs lecteurs, pourraient saisir ?
Alors effectivement, Claire, vous l'avez dit, c'est vraiment le sujet central de ce numéro de France Catholique cette semaine, parce que on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment urgence, là aussi, à sensibiliser déjà les parents, et plus largement, bien sûr, mais d'abord les parents à cette idéologie. Alors, transgenre, ça peut paraître un mot compliqué, mais en fait, voilà, c'est une idéologie qui consiste à dire que finalement, un garçon ou une fille n'est pas lié à son sexe biologique, mais qu'en réalité, il peut choisir s'il est né garçon et qu'il se sent fille, eh bien, il peut devenir une fille et vice versa. Vous voyez, et cette idéologie donc transgenre qui provient des États-Unis, dans les universités, qui ensuite a gagné la France et qui à présent se répand dans les écoles parce que voilà, il y a eu des directives de l'éducation nationale notamment qui obligent finalement à autoriser, à légitimer ces démarches faites en général à l'adolescence, ça peut être à partir de 10 ans, mais enfin, vous voyez, et c'est extrêmement préoccupant dans la mesure où, selon un sondage de 2020, près de la moitié des lycéens déclarent ne pas se reconnaître dans les catégories hommes-femmes. Donc, notre sujet qu'on étudie, on étudie d'abord d'où vient ce phénomène, son ampleur, comment ça se passe dans les autres pays. Par exemple, il y a des cas intéressants comme la Suède qui était d'une certaine manière un peu un pays précurseur en la matière, dans ce type d'idéologie, est en train d'en revenir parce qu'on se rend compte que ça produit des catastrophes jusqu'à l'ablation du corps, des seins pour une jeune femme, une jeune fille, ou des attributs masculins, des organes génitaux pour un homme. Et donc, évidemment, il n'y a pas de retour en arrière possible une fois que ces opérations sont faites. Opération qui, au passage, rapporte beaucoup d'argent, je le signale aussi. Et donc, la question qu'il faut se poser face à tout cela, qui peut évidemment nous inquiéter à juste titre, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Et on peut se sentir aussi, à juste titre encore, bien démuni. C'est pourquoi, dans mon édito, ce que j'ai voulu dire, c'est que d'abord, là aussi, il faut vraiment sensibiliser non seulement les parents, mais aussi les écoles, les chefs d'établissement, les professeurs et également les élus. Et aussi l'enseignement catholique, malheureusement, puisque ça se produit également dans les écoles catholiques et que la réaction n'est pas toujours forcément suffisamment ferme. Donc là, il faut vraiment qu'un jour, il y ait une réaction politique qui soit ferme en disant « ce n'est pas possible » et donc interdire ce genre de pratiques plutôt que de les favoriser. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, sociétal et politique de la solution, s'il y en a une, en tout cas des remèdes qu'on peut trouver à ce phénomène. La deuxième chose, et c'est ce que j'ai voulu signaler aussi, c'est d'abord, peut-être en premier lieu, pour s'agissant des catholiques, le soutien spirituel à la jeunesse. Malheureusement, il me semble, et je ne suis pas le seul à le dire, qu'il y a eu pendant des décennies un abandon de la jeunesse, au sein des catholiques, du monde catholique, que ce soit les œuvres pour la jeunesse qui n'ont pu être soutenues, que ce soit les écoles où finalement par des accords avec l'État qui font que l'enseignement catholique n'est peut-être pas aussi libre qu'il le pourrait ou qu'il le voudrait pour appliquer son propre projet, son caractère propre comme on dit, parfois justement sur ces questions-là, sur ces questions de mœurs, sur les questions sociétales, l'enseignement qui devrait être apporté aux élèves, enseignement moral pour employer des grands grand mot, n'est plus assurée, et la conséquence, c'est que les enfants sont perdus, il y a une perte de repères considérable. Mais heureusement, si je puis dire, il y a aussi des remèdes, et des remèdes qui sont spirituels. Et je pense notamment à une association de prières pour justement la conversion, la sanctification de la jeunesse, une œuvre qui s'appelle Mater Amoris, qui est la mère de l'amour, hein, qui a recours à la Sainte Vierge, à l'appui de la Sainte Vierge, parce que quand on se sent démuni, que ce soit les parents, que ce soit les grands-parents, sur la foi, sur la morale qu'on enseigne à nos enfants, eh bien, il y a toujours ce recours de la prière, et mystérieusement, elle porte du fruit. On en est convaincu de la fécondité de cette prière, même si on ne voit pas toujours les effets. Hein, on ne voit pas toujours des petits-enfants qui sont pas baptisés demander faire la démarche. Mais ça arrive aussi, ça existe, il faut le savoir. Et puis, ça peut se produire aussi bien plus tard. Et donc, continuer, c'est un peu le message aussi que j'ai voulu faire passer aux parents, aux grands-parents notamment, continuer à prier pour vos enfants, pour vos petits-enfants, parce que ça aura un effet, c'est certain, le Seigneur nous l'a promis, hein, quand vous êtes plusieurs à prier pour la même cause, eh bien, il y a une fécondité. On peut penser à d'autres associations, comme la prière des mères, par exemple, qui existe aussi, mais voyez, il faut souffler sur les braises. Vraiment, ce qu'on a fait paraître aussi dans ce journal, c'est une réflexion sur, finalement, rien n'est jamais perdu. Le cœur de l'homme, il reste, même s'il est blessé, marqué par le péché originel, il y a du bon en lui. Et donc, par la prière, mystérieusement, encore une fois, on peut ranimer cette foi. Et ces jeunes, ils peuvent finalement bien évoluer. Donc, vraiment, il faut qu'il y ait, en premier lieu, ce n'est pas compliqué, pour le coup, aller voir un élu, c'est peut-être plus difficile comme démarche. Mais prier, c'est à la portée de tout le monde. Prier le chapelet, par exemple. Je sais qu'il y a des grands-mères qui font ça tous les jours pour leurs petits-enfants. Et vraiment, j'encourage tout le monde à faire de même, parce que c'est un soutien énorme et que c'est la base. Ça ne suffit pas, peut-être, mais en tout cas, c'est la base. Et s'il n'y a pas ça, il ne se passera rien ou presque. Et donc, vraiment, pour avoir une action féconde à long terme, il faut vraiment qu'on commence par ça, que les catholiques, que les parents, les grands-parents se mobilisent. Voilà, donc c'est un peu un appel qu'on a lancé à travers France Catholique, en prenant conscience d'un phénomène, de la gravité d'un phénomène, et en disant en même temps, il y a des remèdes, et il faut savoir les utiliser, surtout quand on est chrétien.
Là, vous avez évoqué justement des enjeux très très importants, hein, Aymeric, par rapport donc à la prière, et vous venez d'alerter sur l'abandon de la jeunesse. Alors pour rebondir justement sur vos propos et ce que vous avez déjà un peu donné comme exemple, on va dire gravissime, est-ce que vous pourriez encore donner des éléments aux auditeurs, vous savez, pour déjouer encore les manipulations, en particulier avec le mobilisme vous savez, la mobilisation des lobbies LGBT en particulier, peut-être des points encore pour les adultes. Vous savez comment les adultes pourraient déjouer ces manipulations, comment pourraient-ils se former, alors en plus de la prière, hein, bien sûr. Est-ce que vous auriez justement des conseils, des clés pour que les adultes puissent s'armer pour leurs enfants?
Alors écoutez, des conseils, moi je m'en garderai bien, parce qu'évidemment l'éducation est un art difficile et n'est certainement pas une science exacte, mais je crois qu'en tout cas c'est la clé, c'est effectivement de la part des adultes, la clé c'est l'éducation, parce qu'évidemment il faut lutter contre les phénomènes, les idées néfastes, les phénomènes politiques qui peuvent nous inquiéter, mais en revanche si on veut vraiment avoir une action concrète, positive, eh bien ça passe d'abord par l'éducation. Et donc, la première chose, c'est que les parents soient présents à leurs enfants et osent s'affronter aussi à une thématique, à un thème difficile qui est la question de la sexualité. On sait que ce n'est pas forcément facile d'en parler à ses enfants, mais néanmoins, on a interrogé notamment une spécialiste de l'éducation affective et sexuelle qui intervient dans les établissements scolaires et d'autres pour parler de ces questions. Et elle fait le constat, donc elle s'appelle Inès de Franlieu, et vraiment je la recommande parce qu'elle a un avis très sûr. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'en fait, il faut partir du constat qu'aujourd'hui, on est dans une société où la sexualité a pris une place considérable. On est dans une société hyper sexualisée et que même les enfants, malheureusement, en entendent parler, c'est leur environnement à l'école. Ne parlons pas évidemment des écrans, des portables et autres réseaux sociaux. C'est un véritable fléau. On pense à la pornographie, mais il n'y a pas que la pornographie. Alors attention, évidemment, il ne s'agit pas de dire que la sexualité en tant que telle est mauvaise, loin de là. Au contraire, elle est bonne, elle a été créée par Dieu. Mais en revanche, quand elle devient une idole, et je crois que c'est vraiment là le propos d'Ignace de Franlieu, c'est de dire que finalement, il y a une espèce d'idolâtrie où on réduit la personne humaine à sa sexualité. Et donc, pour lutter contre ça, eh bien, il faut que les parents s'impliquent et osent parler de choses avec des mots concrets, de sexualité et du corps humain. On est dans une religion, la religion catholique, qui est une religion incarnée. Et donc, penser que tout ça va finalement s'auto-réguler, que les enfants ont du bon sens, etc., ce qui est sans doute vrai, mais enfin, en même temps, ces enfants, ils ont besoin d'être enseignés, hein, ils n'ont pas la science infuse, contrairement à ce qu'on a pu dire dans certaines théories d'éducation un peu fumeuses il y a quelques années. Le premier droit de l'enfant, nous dit Inès de Franlieu par exemple, c'est d'être éduqué. Il a besoin de savoir, de comprendre, et en employant les mots qu'il faut, et parfois même assez tôt, hein, on dit, en tout cas c'est ce que dit Inès de Franlieu, que ça, tout se joue avant même l'âge de 9-10 ans. Donc vous voyez, c'est extrêmement tôt, mais néanmoins, aujourd'hui, l'environnement est tel que si on n'en parle pas, si les parents n'en parlent pas à leurs enfants, eh bien ce sera justement les copains, les réseaux sociaux, Internet ou l'actualité au sens large qui s'en chargera et pas forcément dans le bon sens. Donc il faut vraiment que les parents ils se réapproprient leur rôle d'éducateur avant qu'il ne soit trop tard. Et Ignace de Franlieu cite cet argument qu'on lui oppose en disant « Ah mais oui, mais venant des parents, donc on n'a pas le temps ». Eh bien, si les parents n'ont pas le temps de se prendre en charge l'éducation de leurs enfants, et notamment l'éducation affective et sexuelle, le risque, c'est vraiment de courir à de grandes catastrophes. Et donc, c'est pourquoi il est important d'entendre ces voix, comme celle d'Inès de Franlieu, redire les choses et expliquer effectivement très en amont l'altérité sexuelle, par exemple. Elle l'a fait à une de ses filles, hein, elle raconte ça dans notre interview, qui a 5 ans. Vous voyez, donc on est bien en deçà de la limite que je fixais tout à l'heure à 9-10 ans, en lui expliquant effectivement comment ça marche et en répondant aux questions tout simplement. Il ne s'agit pas forcément de faire des cours quand les enfants n'ont rien demandé, mais quand ils le sollicitent, quand on sent qu'il y a des questions chez eux, eh bien, d'oser affronter à bras le corps, de prendre à bras le corps cette question de l'altérité, du corps humain, du corps sexué, et puis aussi de leur apprendre, parce que le grand principe du christianisme s'agissant de la sexualité, c'est que cette sexualité a une finalité. C'est ce que nous dit Inès de Franlieu. La finalité, c'est d'être dans le don de soi et dans le don de la vie. Ça ne se produit pas toujours, mais en tout cas, ça fait partie des choses possibles et souhaitables lorsque on parle de sexualité humaine. Eh bien, tout cela, les enfants, expliqués avec des mots simples, ils peuvent le comprendre. Et en tout cas, ça donne un autre sens et une autre direction à la sexualité que celle de « je prends, je jette », qui est un peu dans l'air du temps et de notre société, malheureusement. Et donc voilà, vraiment, tout se joue dans les premières années. Il faut répondre aux questions, il faut peut-être se former, mais aussi parce qu'on ne trouve pas forcément les mots, mais il y a des gens, encore une fois, qui sont des spécialistes et qui donnent des bons conseils. Et puis, de manière plus générale, et c'est la conclusion de l'entretien avec Inès de Franlieu dans notre numéro de France Catholique de cette semaine, c'est finalement, plus largement, il faut leur apprendre à se décentrer d'eux-mêmes. Parce qu'effectivement, la sexualité, ça peut replier sur soi, mais ça peut aussi être ouvert justement au don de la vie, au don de soi. Et donc, de manière générale, leur apprendre à se donner, c'est déjà un premier pas. Et ça, ça peut se faire à n'importe quel âge. Et donc, vraiment, c'est le travail des parents. Ce sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Hein. C'est ce que dit le catéchisme. Et ça, je crois qu'il faut qu'ils se le réapproprient en premier lieu si on veut lutter contre ce phénomène du transgenre.
Nous arrivons au terme de l'émission. Un grand merci, Aymeric Pourbet, hein, pour vos propos, pour vos clés de lecture et vos rappels, hein, qui sont très très importants pour nos auditeurs. J'en profite pour leur rappeler le site internet de France Catholique, france-catholique.fr, france-catholique.fr.
Chers auditeurs, c'était notre émission France Catholique, la revue commentée. Vous étiez avec Aymeric Pourbet et Claire. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.